Le temps de réjouissance après le temps officiel. Voilà, je vous apporte les salutations de l'ensemble des églises de notre fédération. C'est toujours une joie pour moi que de les représenter et donc de vous représenter aussi lorsque je visite d'autres églises de notre fédération. Donc je vous apporte ces salutations et je prends les vôtres pour les amener avec moi aussi à d'autres occasions. Voilà, mon épouse s'excuse aussi de ne pas être présente. C'est elle qui, ce matin, dans notre église proche, voisine de Massy, dans laquelle nous sommes engagés, où il ne voit pas très souvent, je dois dire, mais il voit plus souvent nos enfants et mon épouse. Mon épouse était chargée ce matin de l'animation du culte des enfants, puisqu'une fois par mois, nous avons le culte avec les enfants. Donc, elle s'excuse aussi. Elle aurait bien aimé être présente ici aussi. Dans le petit, je vais vérifier peut-être à la fin du culte, mais dans le film qui présente les 50 années hein, de votre parcours de témoignage ici dans cette ville, je crois bien que je dois y être à un moment donné. Oui. Lorsque la chorale, enfin le cœur d'homme, on l'appelait le cœur de veau, c'est vache quand même hein, d'appeler ça un cœur de veau, mais. C'est la chorale d'hommes de Vaux-sur-Seine, était venue chanter dans votre communauté pendant le temps de pastoral de William et Annie Latone, devait être en 84 ou 85, et je pense que je devais être parmi. Alors j'avais quand même moins de cheveux blancs. Je vais avoir 18 ans, donc ça vous dit à peu près l'âge que j'ai maintenant. Voilà, je devais avoir 18 ans et juste un cheveu blanc. Donc maintenant, je compte plus les cheveux noirs. Voilà, en tout cas, sur 50 années et plus même de votre témoignage, il a fallu quand même du courage pour les premières familles de venir et de vivre là le témoignage. Il a fallu du courage à votre communauté aussi de vivre des changements importants, hein, et notamment voilà, les changements au niveau du bâtiment. Il vous faut du courage encore et toujours pour vivre votre témoignage ici, dans cette ville. Et il nous faut du courage aux uns et aux autres pour vivre notre témoignage personnellement aussi, avec tous les défis, toutes les difficultés aussi que nous rencontrons, au-delà de toutes les joies et toutes les bénédictions dont le Seigneur peut nous combler. Mais en fait, qu'est-ce que le courage? Et ce matin, j'aimerais partager autour de cette notion du courage, qu'est-ce que ça veut dire avoir du courage? Et dans la vie chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire avoir du courage? Et je vais commencer d'abord par un prétexte, c'est-à-dire un texte qui va commencer. Voilà, dans Deutéronome au chapitre 31, les versets 1 à 8. Texte pour ouvrir ma réflexion autour du courage, et texte que je ne vais pas particulièrement commenter, c'est pour ça que je l'appelle plus un prétexte, mais qui sera utile quand même. Hein. Voilà. Deutéronome chapitre 31, les versets 1 à 8. Moïse dit encore à tous les Israélites, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous pourraient dire ce que Moïse a pu dire à ce moment-là, maintenant j'ai 120 ans. Rassurez-vous, c'est loin d'être mon cas. Je ne veux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit que je ne passerai pas le fleuve Jourdain. C'est le Seigneur, votre Dieu lui-même, qui marchera devant vous. Il détruira les peuples que vous rencontrerez et vous pourrez prendre leur pays. Et c'est Josué qui sera votre chef, comme le Seigneur l'a d'ailleurs dit. Le Seigneur détruira ces peuples comme il a détruit Sihon et Og, les rois des Amorites et leur pays. Le Seigneur les livrera en votre pouvoir et vous ferez avec ces peuples tout ce que je vous ai commandé. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur, votre Dieu, marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Puis Moïse appelle Josué et il lui dit devant tous les Israélites, « Sois fort et courageux. Le Seigneur a promis à vos ancêtres de vous donner un pays. C'est toi qui conduiras les Israélites là-bas, c'est toi qui leur donneras ce pays en partage. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. » Que l'Esprit du Seigneur nous accompagne, qu'il ouvre nos cœurs, nos esprits, pour entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire à chacun d'entre nous et à son Église. Sa parole est la vérité, qu'il nous conduise dans sa vérité. Les expressions avec le mot « courage » sont nombreuses dans notre vocabulaire français et je crois dans d'autres langues aussi. Avoir le courage de faire quelque chose, prendre son courage même à deux mains, sans pour autant le remettre au lendemain. Courage fuyons, un peu quand même moins positif. Bon courage, vous savez cette expression que souvent on adresse de manière un peu sceptique, voire avec une certaine condescendance. Bon courage, parce qu'on voit quelqu'un peut-être commencer à construire un mur, et puis on sait que les fondations ne sont pas... bon courage. S'armer de courage, perdre courage, trouver le courage de faire quelque chose. Dans les différents sujets et différents défis qui nous préoccupent les uns et les autres, dans nos vies personnelles comme dans nos vies communautaires, comme dans nos engagements aussi de la société, avec tout ce que l'on peut entendre, et au niveau mondial même, et ce qui secoue nos vies. Dans tout cela, il faut sûrement faire preuve de beaucoup de courage. Et certains ont à faire preuve face à la maladie, aux difficultés de toutes sortes qui ébranlent la famille, à faire preuve d'un réel, d'un profond courage. Mais de quel courage parle-t-on ? De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de courage ? On associe peut-être trop souvent avoir du courage à avoir du cran. Comme si avoir du courage, c'était avoir du cran. Vous savez, le cran, c'est une entaille avec ce que cela signifie aussi de rupture, de coupure, de souffrance. C'est aussi proche de crâner, même si ce n'est pas vraiment la même origine. Avoir le cran d'eux donne un côté de supériorité. Et je favorise donc plutôt l'expression « avoir du courage » qui revêt de la noblesse. Et pour cause. Il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de courage sans cœur. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de courage sans cœur. Courage, c'est un beau mot qui trouve justement son origine dans le mot cœur. La fameuse réplique du Cid, si vous vous souvenez, le Cid de Corneille, si vous vous souvenez de quelques leçons de littérature dans votre jeunesse, « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Cette fameuse phrase, « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Cette réplique en est une belle illustration du courage. Parce que là, il était demandé justement du courage. Ce n'était pas le cœur au niveau affectif, c'était « Est-ce que tu as du cœur ? Est-ce que tu as du courage pour affronter les difficultés qui se présentent devant toi ?» Dans la Bible, le mot « cœur » trouve une place de choix. Mais pas pour nous le présenter, en tout cas, comme l'organe humain nécessaire, permettant d'irriguer de manière correcte dans notre corps les éléments de la vie. La Bible parle du cœur comme étant avant tout le centre de nos émotions. C'est le cœur qui bat la chamade,
le centre de nos émotions. Mais la Bible parle du cœur aussi comme étant le centre de nos décisions, décidées avec cœur. Et enfin, la Bible parle du cœur aussi comme le centre de nos motivations. Mettre du cœur à l'ouvrage, par exemple. Centre de nos émotions, centre de nos décisions, centre de nos motivations. Vous voyez que la notion de cœur regroupe la manière dont nous faisons le choix aussi dans notre vie. Les choix dans notre vie et le choix de notre vie. Lorsque la Bible mentionne le cœur, c'est donc pour parler de nos pensées les plus profondes, ce qu'il y a de plus intérieur à nous-mêmes, que Dieu seul, d'ailleurs, peut connaître, et aussi comme moteur intime de nos choix. Mais de quoi est fait notre courage ? La question se pose donc de savoir de quoi est fait notre courage. Notre courage sera à l'image de notre cœur et donc de ce qui le remplit. De quoi remplissons-nous notre cœur ? J'aimerais juste utiliser une illustration. C'est le côté du temps où j'étais à la Ligue pour la lecture de la Bible et où on utilisait ce qu'on appelle, vous savez, les leçons de choses. Voilà, vous avez ici. Là, j'ai dans mes mains deux ballons de baudruche. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, les ballons de baudruche. Voilà. Remplis l'un et l'autre de manière différente. Alors, j'ai commencé avec celui-là. Ça va, je regarde si vous n'avez pas de détecteur de fumée. Je ne voudrais pas embêter les voisins. Et donc là, j'ai un briquet. Normalement, ça fonctionne. J'ai toujours un briquet avec moi, même si je ne fume pas. J'ai toujours un briquet avec moi. Voilà, donc si j'approche en tout cas la flamme du briquet du ballon, vous doutez bien de ce qui va arriver. Oui, on le fait quand même, pour le fun. Puis j'ai pas gonflé le ballon pour rien quand même. Alors, attention les oreilles. Au-dessus de mon téléphone. Mais bon, ça, normalement, il est prévu qu'il soit. C'est. Alors, on y va. Pas eu grand chose, hein. Voilà, on va pas y passer toute la journée, hein, quand même. En fait, c'est tout simple, hein, vous savez, c'est tout simple. Le ballon de baudruche qui était rempli d'air a éclaté fortement, et l'autre rempli en fait d'eau. Merci. Tout dépend de quoi nous sommes remplis. C'était, je vous assure, hein, il n'y a pas de trucage, hein, les deux ballons de baudruche proviennent du même sachet. Il n'y a aucune différence, y a pas, voilà, ils proviennent du même sachet, ils ont été fabriqués de la même manière, avec les mêmes matériaux. Mais ce qui faisait la différence, ce n'est pas les matériaux du ballon de baudruche en tant que tel, c'était ce qui remplissait le ballon de baudruche. Parce qu'avant que le ballon de baudruche, le second, ne commence à sentir quelques difficultés, il faut d'abord que l'eau à l'intérieur, elle puisse bouillir, et puis etc. Et je suis même pas sûr, il faut attendre un bon bout de temps avant que le ballon n'éclate. De quoi est fait notre courage? De quoi est rempli notre cœur? Dans Proverbes au chapitre 24, le verset 10, il est dit ceci: Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. De deux choses l'une, notre cœur est rempli de choses futiles, éphémères comme l'air. Et d'ailleurs, dans les livres de sagesse, c'est le propre de l'insensé d'avoir des pensées qui sont vaines comme le vent, soit de choses utiles, comme l'eau résistante au feu. Dieu regarde à notre cœur. Dieu ne regarde pas à notre apparence, aussi médiocre peut-elle peut-être paraître aux autres. Dieu regarde à notre cœur. Et Dieu veut remplir notre cœur de bonnes choses, qui nous font tenir aussi, qui nous font avoir du courage. Mais charge à nous de choisir les bonnes choses du Seigneur pour remplir notre cœur. Dieu nous encourage donc à garder notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est des pensées de notre cœur que nous agissons, que nous décidons telle ou telle chose, petite ou grande. Et cela nous interroge personnellement. Cela nous interroge dans notre famille. Cela nous interroge dans notre communauté. Cela interroge notre manière aussi de vivre notre foi et notre courage, de partager notre cœur aussi avec celles et ceux qui nous entourent. De quoi remplissons-nous notre cœur? Pas simplement notre temps, pas simplement notre agenda, pas simplement le quotidien de notre vie, mais intérieurement notre cœur. De quoi nourrissons-nous notre vie intérieure? De quelles pensées nourrissons-nous notre vie intérieure? Dieu veut remplir notre cœur de bonnes choses qui proviennent de son cœur aimant de Père. Et j'aimerais terminer avec quelques versets qui se trouvent tout d'abord dans Philippiens au chapitre 2, les versets 2 à 5. Qui peuvent nous aider aussi dans notre recherche des bonnes choses de la part de Dieu pour remplir notre cœur. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien, c'est du vent. C'est de l'air. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Et entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Et enfin, un autre passage qui se trouve dans Galates au chapitre 5, les versets 22 à 25. Voici ce que l'Esprit Saint produit: amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres. douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Que notre courage personnel, dans la famille, dans la communauté, dans notre travail, dans nos études, dans nos engagements, quels qu'ils soient, que notre courage se nourrisse des pensées de Dieu, ces pensées que nous pouvons éprouver dans la prière, dans la méditation et dans la rencontre communautaire. Que Dieu nous fasse cette grâce de remplir nos cœurs des bonnes choses qui sont dans son cœur. Je vous invite à prier. Nous voulons, Seigneur, tout d'abord te demander pardon pour toutes les pensées qui, en nous, ne proviennent pas de ton cœur compatissant, aimant. Merci parce que tu nous fais la grâce de venir et de nous apprendre jour après jour les pensées qui sont en Jésus-Christ. Fasse, Seigneur, que cette communauté ici et toutes nos communautés aussi dans notre fédération et au-delà soient des lieux qui encouragent les uns et les autres à se nourrir et à vivre des pensées de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons nous encourager les uns les autres, nous donner ce courage en partageant la vie que nous avons reçue de toi. Fasse que ton esprit, Seigneur, souffle en nous, souffle à travers nous, afin que tu sois glorifié par nos vies et par un cœur simple et aimant qui te fasse plaisir, Seigneur. C'est notre désir, notre souhait. Merci de nous accompagner jour après jour. Amen.